Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Vous le savez, si vous suivez cette émission, nous aimons y parler d'auteurs classiques et souvent vous les faire découvrir. Aujourd'hui, nous allons évoquer un écrivain un peu tombé dans l'oubli, mais que notre invité, François Angelier, ressuscite dans une biographie fouillée, précise, passionnante. Cet écrivain s'appelle Georges Bernanos. L'auteur de chefs-d'œuvre comme « Sous le soleil de Satan »,« La joie »,« Journal d'un curé de campagne », mais aussi de récits de pamphlets comme « Les grands cimetières sous la lune » contre la guerre d'Espagne ou « La grande peur des bien-pensants » contre son époque. Nous parlerons aussi d'essais comme « Contre les robots » qui ont une brûlante actualité. Idée consacrée à Georges Bernanos avec François Angelier, donc, qui dans sa biographie « La colère et la grâce » écrit ceci. Seuls sont dignes du divin de la langue les paroles qui délivrent en leur plus grand dépouillement la sévère vérité d'un être, urgence implacable et nue d'une lettre d'otage, de ces placards collés la nuit par quelques combattants de l'ombre et qu'au matin arrache la police ou la serre les bien-pensants. La page doit avoir la soudaine déflagration d'un mot d'ordre, la gifle d'un tract. Nous en parlons dans un instant. Bonjour François Angelier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro. Pour une fois, c'est vous qui allez répondre aux questions et non pas les poser.
Pour une fois, je suis invité et non pas intervieweur. Oui, oui.
Car je dois préciser que vous êtes écrivain critique et producteur, homme de radio à France Culture, de l'émission Mauvais Genre. On peut en dire deux mots de
cette émission. Oui, Mauvais Genre qui entre dans sa 25e année est un magazine hebdomadaire des cultures de genre, donc polar, SF, bande dessinée. Et ça, donc, depuis un quart de siècle, ce qui fait qu'on a vu évoluer beaucoup le paysage et qu'aujourd'hui, l'actualité devient énorme. Et on peut dire que c'était une bonne idée de la créer il y a 25 ans et qu'aujourd'hui, ça continue d'être non pas une bonne idée, mais un sujet, une préoccupation urgente, cette culture, oui. Ces cultures de genre.
Alors, vous êtes passionné par les figures atypiques François Angelier, notamment les écrivains catholiques.
Absolument, ça dépend, vous savez, tout dépend de la conception qu'on a de la culture et de la littérature. Moi, je pense que la littérature doit être une riposte, la littérature doit être une réponse, elle doit être une admonestation, comme on dit, une adresse à l'époque, à la société, au pouvoir. Et donc, j'ai trouvé dans les écrivains, ceux qu'on appelle les écrivains catholiques, de fait, ils étaient tous catholiques romains, un modèle, je dirais, de ce type d'attitude. C'est une lignée, une dynastie intellectuelle assez précise, bon, qui sont contre-révolutionnaires au départ. C'est cette lignée qui va de Barbé d'Aurevilly jusqu'à Bernanos. La ligne B, Barbé, Blois, Bernanos, auxquels on peut évidemment adjoindre Huysmans, Paul Claudel, Julien Green, l'orientaliste Louis Massignon, qui sont des gens qui n'ont pas laissé leur époque en paix. Et qui, via justement la puissance du message évangélique, ont rappelé à l'histoire et ont rappelé à la société dans laquelle ils vivaient qu'il fallait être tenace et, comment dirais-je, présent.
François Angelier, quelle place occupe Georges Bernanos dans cette galerie de portraits, de noms que vous venez de citer?
Alors Bernanos, c'est à la fois un héritier, je dirais c'est un peu une apocalypse. C'est-à-dire qu'il récapitule, on peut le dire, presque un siècle de littérature spirituelle, de spiritualité catholique en littérature. Il la récapitule, il l'épure et il la repropulse vers le XXe siècle. C'est ça, la fonction de Bernanos, elle est là. C'est-à-dire à la fois d'avoir vécu de manière très rigoureuse et très intransigeante le message chrétien, d'une part, et sur le plan de l'écriture, sur le plan de la vision, d'avoir assumé un héritage, de l'avoir retravaillé et d'en avoir fait quelque chose pour l'époque de totalement contemporain.
Avec une noble vision de l'écriture, il disait, vous le soulignez dans ce livre, François Angelier, que le bon Dieu, je le cite, ne m'a pas mis une plume entre les mains pour rigoler. C'est vrai qu'on rigole pas beaucoup. Hein.
Absolument. Non, alors Bernanos était un bon vivant, quelqu'un qui pouvait être extraordinairement drôle, qui avait le génie de l'imitation, mais quand il prenait la plume, c'était rare. Alors on peut parfois s'esclaffer dans certains articles sur son humour noir, sur cette espèce de tentative enragée de détruire telle image ou telle figure. Mais c'est sûr que la fameuse phrase « si Dieu m'a mis une plume en main, ça n'est pas pour rigoler avec », renvoie à sa mission. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se considérait comme un missionné, ce qu'il appelait un vocatus, mot latin qui veut dire un appelé. Il a été appelé par Dieu pour, d'une certaine façon, intervenir par les mots et par le langage. Et quand il dit « pour avoir à rigoler avec », c'est-à-dire que pour lui, le langage et les mots sont un don de Dieu aux hommes. Et quand il est entré en littérature, en 1919, après la guerre, c'était justement pour rendre à la langue sa dignité et sa force.
C'est ainsi, François Geoliers, qu'on peut dire que Bernanos a eu, et là je reprends une citation de vous, des mots de vous, une vie d'écriture.
Totalement. Sa vie, à partir de... C'est moins vrai avant la Première Guerre mondiale, où il était, disons, adolescent, jeune homme. Il a été combattant pendant 5 ans dans les tranchées. Mais après la Première Guerre mondiale, sa vie se confond avec l'acte d'écrire. C'est-à-dire qu'évidemment, il fallait qu'il gagne la vie de sa famille, qui était en expansion constante. Il était père d'une famille nombreuse, il avait 6 enfants. Son épouse est restée son épouse pendant toute sa vie, de 1917 jusqu'à 1948. Donc il fallait qu'il gagne la vie, le pain quotidien de sa famille, ce qui était énorme. Mais néanmoins, il devait le gagner par l'écriture. Donc tous les jours, Bernanos avait rendez-vous avec la page blanche. Et il disait, mais moi, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un homme de lettres, je ne suis pas un raseur et un phraseur, je suis quelqu'un qui est là pour témoigner. Donc tous les jours, il avait rendez-vous avec cette espèce d'espace un peu aveuglant, qui est la page blanche, sur laquelle il devait jouer sa vie et témoigner. Et donc c'est ça, je veux dire, la vie de Bernanos, c'est ça. C'est un homme qui, tous les jours, pendant 40 ans, avait rendez-vous avec le témoignage de l'écriture.
De préférence dans les cafés.
Alors, dans les cafés. Pourquoi dans les cafés? C'est pas non pas parce qu'il levait le coude, mais simplement parce que, d'une part, il ne voulait pas être dupe de ce qu'il écrivait. C'est-à-dire que quand on est immergé dans un café, on voit les gens qui rentrent, qui sortent, qui bavardent, on entend le percolateur, les dominos. Enfin, rappelons-nous, on est quand même, il y a quelques dizaines de... Il y a presque un siècle. Donc c'est une sorte de vie sociale ordinaire, c'est une rumeur, et qui le maintenait au sein de l'humanité. Donc c'est l'idée qu'en même temps, je ne suis qu'un homme entouré d'autres hommes. Donc ça, il n'y a pas la tour d'ivoire, le superbe isolement du grand écrivain avec un G majuscule. Ce n'est pas le grand écrivain, c'est un homme parmi les hommes, et donc qui écrit. Et en même temps, je pense qu'au sein de cette rumeur, il avait le souci de se créer sa bulle et son silence. C'est-à-dire que pour Bernanos, l'écriture est un acte violent de spiritualité. Il fallait descendre en soi-même pour trouver les mots nécessaires. Et ça, Bernanos le faisait en trouvant en lui une espèce de silence entouré de la rumeur des hommes. C'est véritablement un dispositif presque théâtral, puisque cette stratégie, elle est déjà présente en 1913, quand il est jeune journaliste monarchiste à Rouen. Il écrit une lettre à un de ses amis, c'est la seule lettre qu'on ait de cette époque. Il dit, je suis à la brasserie à Rouen, à côté de moi, il y a le candidat aux élections, machin. Bon. Et ça continue jusqu'en 1948, quand il est en Tunisie, avant qu'il tombe gravement malade, où il trouve toujours un endroit, un café quelque part, pour aller écrire.
Donc il nous faut trouver quelques repères chronologiques. François Geoliers, il est né en 1888, oui. Il est mort en 1948. D'abord, il faut préciser que, et vous le dites dans le livre, qu'il y a très peu de traces de lui aujourd'hui. Hein. Vous dites que tenter d'écrire sur lui, c'est s'engager sur une route bien nue.
Absolument. Si par rapport à, je dirais, ses camarades de promotion, c'est-à-dire à tous les grands écrivains, là aussi, en un seul mot, français des années 20-30, c'est-à-dire Gide, Malraux, son ami Malraux, je ne sais pas, Paul Valéry, Monterland, Mauriac, qui ont laissé, je dirais, des archives en bon ordre, bien rangées, qui ont entretenu des correspondances littéraires avec leurs confrères, avec le milieu, enfin des gens, Claudel aussi... sont des gens qui sont littéralement entourés de témoignages et entourés de documents. Bernanos, pas du tout. Bernanos, c'est un homme qui a toujours eu le souci, je le dis, d'être solitaire pour être mieux solidaire. C'est-à-dire qu'il considérait que vivre à Paris dans le milieu littéraire, c'était s'offrir à des tentations, à l'inutilité, aux mondanités. Donc il a toujours vécu à l'écart. que ce soit dans la province française, à l'est, dans l'Oise, au bord de la Méditerranée, ou alors à Majorque ou au Brésil. À l'écart, donc dans cette espèce de retraite, je ne veux pas dire que c'est un ermitage, puis il y avait les six enfants Bernanos qui faisaient un peu qui faisaient du foin. Donc dans ces retraites qui ont été les siennes, personne ne venait le voir. Donc bon, d'une part, de temps en temps, il y avait un courageux qui se déplaçait pour faire un entretien avec Bernanos, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Lui-même avait une sainte horreur des correspondances littéraires, tout ce qui était gens de lettres, comme ça. Donc il ne reste pas grand-chose en définitive. Il reste trois volumes de lettres qu'il faudrait, à mon avis, rééditer. Et puis c'est tout. Et c'est pas grand-chose. Ce qui reste, c'est son œuvre.
François Joly, on va essayer de retracer sa vie. Ce n'est qu'une évocation, évidemment. Il faut lire votre biographie magistrale de Bernanos. Peut-on parler de son enfance avant 1914, avant la guerre, qui est quand même un virage important?
Alors son enfance a été quelque chose, une période de sa vie absolument essentielle.
Donc il est né à Paris, il a vécu en Artois dans le Nord.
Il est né à Paris en 1888. Il a grandi à Paris au sein d'une famille qui est une famille de bourgeoisie aisée, puisque son père était tapissier décorateur travaillant pour la haute société, homme monarchiste, catholique. Sa mère est issue d'une famille de fermiers berrichons. Donc bourgeoisie aisée, magasin dans le quartier de la Madeleine. Bernanos n'a pas à souffrir véritablement de là, mais ça n'est pas un urbain, c'est pas quelqu'un qui s'épanouit à Paris. Et ensuite, l'essentiel, c'est que très tôt, son père, qui est fortune faite, au moins une aisance certaine, se retire, arrête son activité de tapissier décorateur pour se retirer à Fressin, dans l'Artois, dans une espèce de grande bicoque, dans un petit village de l'Artois. Et là, les Bernanos y vont, qui ont gardé un pied-à-terre à Paris, ils vont très fréquemment aux vacances. Et là, les vacances à Fressin sont pour Bernanos beaucoup plus que le vert paradis des amours enfantines ou le moment de l'enfance heureuse dont on gardera la nostalgie. C'est véritablement un moment, je dirais, à la fois de pureté héroïque, un sentiment presque mystique d'une sorte d'idéal d'être et d'idéal de vie qui pour lui restera presque traumatisant. C'est presque, je ne sais pas si l'expression est possible, un bonheur traumatisant. Et donc, ce sentiment effréné de vivre comme ça, il le gardera toute sa vie comme étant pour lui la perfection de l'être, presque. Et après, seuls les saints pourront, les figures de sainteté pourront le rapprocher de cet état-là. Donc, c'est très important. Alors, ça, c'est le Bernanos des champs. Le Bernanos des villes, par contre, est beaucoup moins heureux, puisqu'il est très souvent malade. Et c'est un très mauvais élève. Il décroche néanmoins une licence en droit à Paris. Et puis, avant la Première Guerre mondiale, il est envoyé comme il est devenu camelot du roi, famille de monarchistes catholiques, c'est important. Il a été envoyé par Maurras et Léon Daudet à Rouen pour ranimer
l'avant-garde de Normandie.
Et puis après, il fera 5 années de Première Guerre mondiale au sein du 6e dragon. À l'origine, il n'a pas du tout été mobilisé parce que sa santé était mauvaise. Mais néanmoins, il réussit à intégrer cette unité qui était une unité d'élite et à vivre une guerre qui n'est pas une guerre héroïque, très exposée, comme la connaîtront Genevoix, Junger et autres, mais qui lui permet il a vécu les tranchées, il a été, je dirais, à l'arrière de l'avant. Il a vécu d'une certaine façon le spectacle de la mutation, je dirais, technologique et presque industrielle de la guerre. Et là, ça l'a complètement révolutionné. Et là, le Bernanos change.
Alors, avant cette période, enfin pendant cette période de l'avant-guerre et même après, en quelque sorte, il est très proche de l'action française.
Ah bah il est plus que très proche. Ouais.
Un des acteurs principaux de l'action française.
Tout à fait. Il y a eu deux Charles dans la vie de Bernanos, Charles Maurras et Charles de Gaulle. Le deuxième l'a tout à fait impressionné. Le premier l'a beaucoup déçu.
Ils se sont fâchés d'ailleurs.
Ah oui, ça a été même très violent. Donc, Bernanos, le jeune Bernanos s'engage de manière, il disait j'aime le bruit, il s'engage de manière violente au sein de l'action française. Ça devient un des premiers camelots du roi. Il milite, il fait de la prison, il est condamné de nombreuses fois, mais dans l'action française, c'est une espèce de. Il figure au tableau d'honneur des camelots du roi.
C'est une médaille. Oui.
Voilà. Jusqu'en 1914, il a une vie de militant politique, d'activiste politique, violent, déterminé, talentueux, aussi bien. La devise des camelots du roi, c'était à la main une canne, dans la poche un bon livre. Donc c'est un militant politique, mais qui attend de la part de l'Action française le grand coup, la grande révolution qui ne vient pas. Donc il finit par être extrêmement déçu par l'Action française et par s'en éloigner après la Première Guerre mondiale.
Alors après la Première Guerre mondiale, c'est une étape importante car il est marqué évidemment par les combats, oui. Mais il est aussi marqué par l'après-guerre, en fait, les mois et les années qui vont suivre.
Alors il a une répulsion violente à l'égard de la France de l'après-guerre, de l'après-Première Guerre mondiale. Il considère qu'on a perdu la paix. On a gagné la guerre, mais on a perdu la paix, et que la société française n'est pas à la hauteur de sa victoire. C'est-à-dire qu'elle ne tire pas les leçons de sa victoire. Elle se dépêche de marginaliser les anciens combattants ou de les transformer en pantins avec la culture poilue, ce que Bernanos exècre. Et puis, surtout, on recommence à, je dirais, l'habituelle petite cuisine politico-économique d'avant-guerre. La France d'après-guerre n'a pas tiré les leçons de ce qui lui est arrivé.
Alors, je vous cite, pour que les auditeurs connaissent votre style, François Angelier, le Bernanos de 1919, père de famille fraîchement démobilisé, est encore sans travail, n'a que répulsion pour cette France de l'immédiate après-guerre, celle du défilé de la victoire, entre guillemets, des débitants en cartes postales, stèles et monuments aux morts, des chantres officiels du patriotisme tricolore et de la fort rentable culture poilue, celle également d'un paysage politique promptement recomposé, sans dol ni problème. Est-ce que c'est à cette époque qu'il commence à éprouver le besoin d'écrire, enfin, je veux dire,
oui, absolument.
Une œuvre.
Tout va ensemble. Il s'éloigne de l'Action française et là, il éprouve le besoin de sauver le français. C'est assez étrange, c'est-à-dire de racheter la langue française qui a été prostituée et transformée en espèce de médias comme ça, médiocres et propagandistes pendant la guerre. Donc il faut racheter la langue française et lui rendre les mots essentiels, douleur, sacrifice, héros, saint, soient remis à leur place. Et ça va prendre 7 ans jusqu'au soleil de Satan.
Alors justement, sous le soleil de Satan, vous écrivez, François Angelier, dès son premier roman, Bernanos annonce nettement la couleur, elle sera d'une sombre âcreté, d'un noir de poids.
On est en 1926, vous imaginez, les années folles, le bœuf sur le toit, Cocteau, le groupe des Sept, les surréalistes, une espèce de vitalité et de superficialité, mais de griserie, de frénésie, d'avant-gardisme, de modernisme. Et Bernanos, c'est au milieu de tout ça, comme une espèce de templier qui fait la gueule et qui dit « Non, la situation est en définitive tragique, donc vous avez beau vous amuser, moi, je... » Il campe à part, d'une certaine façon, et ça va être son attitude permanente. C'est-à-dire, c'est l'homme à part, c'est un peu le Cassandre, c'est l'homme qui prévient qu'en permanence, les choses vont aller mal et que sous la superficie, comme ça, de la joie de vivre, eh bien, il y a une situation extrêmement tragique.
Car il faut le dire, Sous le soleil de Satan est un roman tragique.
Absolument. Alors, c'est très étrange parce que cette volonté de sauver la langue, il va l'incarner à travers l'histoire d'un curé qui, comme il le dit, est mal à l'aise dans sa sainteté, c'est-à-dire un personnage...
L'abbé Donissant, curé à campagne, qui au départ,
on considérait comme un gentil abruti. Le modèle, c'est le curé d'Ars. Qui était comme boulé à tous ses examens, comme disait Henri Michaud. C'est pareil, au départ, c'est un personnage qui a la vocation, mais qui est intellectuellement proche de zéro, donc on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, c'est un colosse. Et puis, il est mis dans les mains de son connard, c'est-à-dire d'un vieux chanoine érudit, riche, cultivé, qui, lui, voit. Mmh. Il voit quoi ? C'est que l'abbé Donissant est promis à la sainteté. Et il le met sur les bons rails. Et là, on assiste à la courbe de vie, à la trajectoire de sainteté de l'abbé Donissant, avec des moments qui sont restés très célèbres, que ce soit
sa rencontre avec
le diable, puisqu'un soir, il part remplacer un confesseur, tout seul dans la campagne, et là, il s'égare, il sort même de l'espace-temps, puisqu'il n'arrive plus à sortir, il est en boucle, il tourne en rond, et il rencontre un maquignon qui propose de l'aider. Le maquignon, c'est Satan, et il affronte Satan. Donc à la fois, l'abbé Donissant affronte le diable, en même temps, il reçoit des charismes, ce qu'on appelle des charismes dans le monde chrétien, c'est-à-dire des capacités de puissance mystique, notamment d'arriver à voir les âmes et l'histoire des âmes, de remonter dans l'histoire des âmes. Et puis après, il y a les tentatives de guérison miraculeuse, le génie d'abbé Donissant en tant que confesseur. Il y a tout un périple mystique.
Et puis il y a la rencontre avec Mouchette.
Et puis la rencontre avec Mouchette, qui ouvre le roman, qui est une sorte de... qu'on peut dire c'est une diablesse, c'est une sauvageonne, mais Bernanos a un amour effréné de ses personnages, donc c'est une âme en errance et en peine. Et donc Mouchette, comment dirais-je, ce sera le grand face-à-face entre Donisson et Mouchette, qui Donisson la percera, lui dira sa vérité et Mouchette se suicide.
Mouchette qui a tué,
qui a assassiné son amant, le marquis de Cadignan. C'est amusant parce que, enfin c'est amusant, non, c'est singulier de voir ce roman s'ouvrir par un fait divers provincial, comme on en voit dans la presse très quotidiennement. Enfin, je veux dire, ça commence par une couverture de détective sous Soleil de Satan. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça se termine dans la transfiguration et
François Joliet, je vous propose d'écouter un extrait du film que Maurice Pialat a tourné, inspiré de Sous le soleil de Satan, avec Gérard Depardieu, qui incarne l'abbé Donisson, et Sandrine Bonnaire, qui, elle, est Mouchette. Écoutons-le quelques instants.
Vous n'avez rien à craindre de moi, je ne vous force pas. Je suis simplement heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui, après tant de jours perdus. Mais il n'est pas trop tard.
Il est même un peu trop tôt.
Je ne vous ai pas cherché, j'ai fait un long détour pour vous rencontrer. Un très long détour. Je voulais simplement vous éloigner, car vous savez bien que le mort que vous attendez ici n'y est plus.
Un mort ? Quel mort ?
Ne vous étonnez pas, je suis moi-même qu'un pauvre homme. Mais en vous voyant, j'ai vu Dieu dans votre cœur. N'ayez pas honte comme ça.
Gardez vos sermons, je sais même pas ce que vous voulez dire.
D'autres épreuves vous attendent, sûrement plus dures. Quel âge avez-vous ?
Vous devez savoir, vous qui savez tant de choses.
Jusqu'à ce jour, vous avez vécu comme une enfant. Qui n'a pas pitié d'une enfant ? Voyez-vous, Dieu nous assiste jusque dans nos folies. Et quand on se lève pour le maudire, c'est encore lui qui nous soutient.
Qu'avez-vous à faire d'une fille comme moi ? Un enfant. Des enfants de cœur comme moi, vous n'en rencontrerez pas beaucoup dans vos sacristies. Ils n'useront pas votre eau bénite. Priez votre bon Dieu de ne jamais passer par où je suis passée.
Vous vous croyez exceptionnel. Je crains au contraire que vous n'ayez pas quitté la route commune. Qu'avez-vous trouvé dans le péché qui valut tant de peine ?
Vous faites un drôle de curé. Alors faire le mal, c'est rien du tout. Même si...
Oubliez ça. Vous n'êtes pas devant Dieu coupable de ce meurtre. Vous êtes un jouet dans les mains de Satan.
Satan.
Je vous vois maintenant. Il m'est donné de vous voir.
Extrait donc du film de Maurice Pialat, tourné en 1987, qui est sorti en 1987, Sous le soleil de Satan. Palme d'or, d'ailleurs, à Cannes, en 1987. Que pensez-vous de cette interprétation ? Elle est fidèle ?
C'est un film pour lequel je n'ai pas un amour effréné. Mais j'avoue qu'au moins, les deux personnages de Mouchette et de Donisson sont... Il y a des critiques sur d'autres aspects, sont absolument extraordinaires. Depardieu est évidemment plus qu'à sa place, et Sandrine Bonnaire aussi. Et là, j'écoutais l'échange, c'est totalement fascinant pour un acteur, quand on doit, d'une certaine façon, jouer et incarner un dialogue pareil, comment fait-on ? C'est très étonnant. Et à la fin, c'est ce dont nous parlions avant l'extrait. Je vous vois, j'ai capacité de vous voir. Je pense qu'il dit, j'ai pouvoir de vous voir. C'est ça, c'est qu'il a, ce charisme d'outre-vision qui lui permet d'aller directement à l'âme et aux racines de l'âme.
François Joliet, cette entrée en littérature en quelque sorte de Georges Bernanos, c'est un succès en 1926.
Oui, parce que tout le monde est surpris. En plus, ça paraît dans une collection qui est assez avant-gardiste, assez à la mode, qui est la collection Le Roseau d'Or, créée chez Plomb par le philosophe catholique Jacques Maritain, où il y avait de très grands écrivains, Paul Claudel, il y avait Julien Green et autres. Donc c'était véritablement une collection, on n'était pas dans la propagande catholique, dans le roman pieusard et bien-pensant, on était vraiment dans l'avant-garde intellectuelle spiritualiste. Voilà, c'est un grand moment d'avant-gardisme spiritualiste. Et Maritain, qui est un peu inquiet quand même à l'idée de publier un roman pareil, puisque c'est quand même rare, c'est vraiment une totalement révolution dans le roman catholique, le publie, ça n'a pas été évident tout de suite. Et là, le succès est énorme parce que c'est la nouveauté. qu'est-ce que c'est que ce personnage inconnu de Bernanos qui nous balance, comme il dit, qui nous balance en travers du chemin, ce curé illettré ou cet Hercule chrétien, et puis le diable et tout ça, le retour du diable en littérature.
Alors il y aura d'autres livres, d'autres romans, d'autres récits autour de ces thèmes, Journal d'un curé de campagne, par exemple,
voilà, un peu plus loin, 1936. C'est un roman absolument essentiel, parce que c'est là que le prêtre catholique se hisse au niveau des mythes littéraires universels. C'est-à-dire qu'on a un curé qui n'est plus celui de Balzac, de Zola, d'Octave Mirbeau ou de Huysmans, qui devient un type humain. Ça devient le curé, avec ce roman, devient une sorte d'archétype romanesque universel.
Alors, François Angelier, il y a, bon, on ne va pas citer tous les livres de Georges Bernanos, c'est impossible, ce n'est pas le but de l'émission. Et il y a quand même des périodes importantes dans la vie de Georges Bernanos. Nous avons parlé de la Première Guerre. Là, maintenant, il faut parler d'un départ de Bernanos en Espagne, au Baléares, à Majorque. Pour quelle raison part-il en 1934 à Majorque? C'est un des 36 déménagements.
Il y a 30 déménagements dans sa vie. Au sens, c'est tout simple. C'est un déménagement à la cloche de bois parce qu'il n'a plus d'argent. Donc,
il n'a jamais roulé sur l'or, Georges Bernanos.
C'est pas un économe, mais le curé de campagne dit que l'argent lui coule comme du sable entre les doigts. Bernanos, c'était un peu ça. Et donc, il arrive à un moment où il n'a plus d'argent. Ses biens ont été saisis, donc déménagement à la cloche de bois. Il ne paye personne, il laisse tout sur place et il débarque à Palma de Majorque avec une valise en carton et ses enfants. Voilà, et c'est son épouse. Donc il va vivre là jusqu'en 1938. 37.
Et il va donc être le témoin de la guerre d'Espagne.
Voilà. C'est ça qui est très important. C'est qu'au départ, c'est un monarchiste catholique, donc il est plutôt favorable à la révolution franquiste. Au tout départ, il est phalangiste. Son fils milite dans la Falange. Et très rapidement, il réalise que le franquisme n'est qu'une colossale, une immense trahison de l'idéal chrétien, de l'idéal de la croisade et de l'idéal évangélique. Une sorte de... Le fascisme étant une défiguration qui n'est pas quelque chose qui se veut l'ordre, mais qui n'est que la violence et pas l'ordre, et que surtout, le prétexte religieux n'est qu'une bouffonnerie sanglante, une espèce de gigantesque mensonge. Et ça, très rapidement, Bernanos le réalise, d'autant plus qu'il est enfermé dans l'île de Majorque, et il, à la différence d'Orwell, de Malraux, ou d'Hemingway, il ne verra pas les combats, les grands combats aériens, les duels d'artillerie, les villes prises et reprises, il ne verra pas tout ça. Il est dans une petite île où les comptes se règlent de manière sordide avec des escadrons de la mort appuyés par les fascistes italiens. Et là, c'est le plus sordide du sordide, c'est-à-dire que des vieux contes ou de vieilles haines recuites se règlent dans la sauvagerie, et c'est à ça qu'il assiste. Les corps, les gens raflés, fusillés, laissés au bord des cimetières, arrosés d'essence. Et là, quand il lit la presse française, où tout le monde fait de Franco le Saint-Michel Archange qui va sauver l'Occident du péril communiste, il dit, dis donc, moi j'ai vu ce qu'il en était. Arrêtons de nous raconter des histoires et arrêtons de nous ridiculiser.
Et il va écrire un chef-d'œuvre qui va apparaître en 1938, Les grands cimetières sous la lune, qui est un pamphlet, un pamphlet antifranquiste de première grandeur. En fait.
Alors c'est un ouvrage qu'il faut associer à un livre de 31 qui est La grande peur des bien-pensants, qui est un hommage à qui est une évocation de Drummond et surtout une sorte d'analyse de la crise française sous la Troisième
République.
De
son époque, oui.
Voilà, et une préfiguration de l'apocalypse technologique et du règne des machines. Et ça, il le poursuit dans Les grands cimetières sous la lune, qui est à la fois une évocation et une sorte de condamnation, c'est même plus qu'une condamnation, c'est une exécration au sens fort de tout ce qui est la prétendue croisade franquiste, en même temps qu'une réflexion sur le monde moderne. C'est ça qui est intéressant chez Bernanos, c'est qu'il y a des prétextes premiers, des raisons premières d'écrire un livre. Alors là, la guerre d'Espagne, Drummond, tout ça. Et puis derrière, il y a une analyse en profondeur de la crise, d'une part la crise française, la crise de la République française et de la société française, et puis plus généralement du monde moderne.
D'ailleurs, il va revenir en France, mais il va repartir après au Brésil en 1938.
Il repart tout de suite, considère que la France ne présente plus d'intérêt, Pour un homme épris comme lui de liberté de penser et d'agir, c'est irrespirable. Donc il part. Alors au départ, il veut partir au Paraguay, parce qu'il se souvient d'avoir lu à la Belle Époque, dans une revue biblique, que c'était au Paraguay qu'il y aurait eu le paradis terrestre. Donc, lubie bernanosienne, partons au Paraguay. Donc il a des amis qui sont déjà allés. Donc, bon. Il part, il va d'abord au Brésil, il est très bien accueilli, ensuite en Argentine, après il remonte vers le Paraguay n'existe pas, enfin c'est un pays qui a été totalement anéanti par la guerre, donc il n'y a, pas de Paraguay, donc il fait machine arrière et retourne au Brésil où il restera jusqu'en 1945, donc 38-45.
Et c'est là qu'il va suivre en quelque sorte de loin la guerre et c'est là qu'il va s'engager sous la bannière de Gaulle, en fait, avec la France
est,
libre.
J'ai presque envie de dire qu'il est, dans la résistance, dans l'anti-pétinisme, et dès 1938, puisque tout ce qui va se passer ne fait que confirmer ce qu'il sentait, ce qu'il pressentait. Et donc, effectivement, la débâcle et l'exode pour lui, hélas, c'était quelque chose de prévisible, mais c'est une catastrophe d'humiliation, de déshonneur. Et c'est plus qu'une débandade, c'est un déshonneur. Et après, il y a un ralliement à De Gaulle et à la France libre, bien évidemment, qui s'accompagne de toute une réflexion sur l'avenir, l'avenir de la planète.
Alors, il va beaucoup écrire, il va même faire de la radio.
Absolument,
il fait, de tout. Sur la BBC.
Il a eu la chance de trouver des amis riches et des mécènes qui lui ont trouvé une tribune. Donc il écrivait deux fois par mois dans un journal qui s'appelait Haute Journal, dirigé par le mania de la presse brésilienne, il s'appelait Assis Chateaubriand. Donc on a des centaines, j'en ai dressé le catalogue le plus précisément possible. C'est magnifiquement édité en Pléiade, dans ce qui s'appelle Les Écrits de combat. C'est véritablement la tribune quasi hebdomadaire de Georges Bernanos, qui écrit dans la presse brésilienne, mais aussi dans la presse de la France libre, qui paraît à Londres, qui paraît à Alger, et il fait de la radio, et même De Gaulle voulait l'envoyer à Brazzaville pour faire du micro, comme nous hein, en ce moment.
Oui, oui.
Et alors, mais bon, hélas, rien ne s'est passé. Donc, il y a même une évocation de la radio, ça, je recommande ça aux auditeurs et à nos collègues de lire ce que Bernanos raconte de la radio. Il y a une espèce de vieille radio qui marchait quand elle en avait envie.
C'est extraordinaire. Évidemment. Et c'est au Brésil qu'il va croiser Stefan Zweig.
Oui, alors ça, c'est un moment bouleversant dans sa vie. C'est que Zweig, qui était une sorte de prince, comme ça, de la culture européenne, juif autrichien, libéral, humaniste, personnalité mondialement connue, best-seller, enfin, véritable homme qui incarnait au mieux le grand humanisme européen des années 20-30, eh bien, est contraint à la fuite et contraint à l'exil au Brésil. Et il se réfugie au Brésil et surtout, il assiste à la fin, à la dissolution, à l'effondrement, à la destruction volontaire d'un monde qui était le sien. Et donc, Zweig décide d'en finir, de se suicider
avec
son épouse. Oui, oui. Mais dernier sursaut, dernière tentative de se raccrocher à quelque chose, il demande à rencontrer Bernanos. Et là, à Barbacena...
Pour lequel il avait une grande admiration.
Pour lequel il avait une admiration et qui l'intriguait en même temps. C'est quand même pas le même genre de personnage. Et là, il y a eu ce face-à-face de plusieurs heures entre Zweig et Bernanos. Hélas, nous n'avons pas la matière de leur dialogue.
Ça, c'est vraiment dommage.
Sébastien Lapac du Figaro a écrit une pièce de théâtre, romancier, une pièce de théâtre qui était jouée au Brésil, où il essaie d'imaginer cet entretien. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais c'est sûrement, je dirais, un des face-à-face, une des rencontres les plus bouleversantes de l'histoire littéraire. Enfin, c'est quelque chose d'inouï.
idées, la parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, nous sommes au galop, hein, pour dans l'évocation de cette vie, François Angelier. Retour en France en 1945.
Absolument. Et de Gaulle. Trois fois rappelé par De Gaulle. Oui. Il traite les pattes pour rentrer parce qu'il sait que la France ne va pas lui plaire.
Et De Gaulle lui dit nous avons besoin de vous. Ouais, et ouais. Il lui fait comprendre que bah non, ça ne va pas être possible.
Bah, c'est-à-dire que De Gaulle, d'abord. Bernanos a reconnu en De Gaulle, je ne veux pas dire le roi qu'il souhaitait, mais en tout cas l'homme qui incarnait ce qui est le plus proche de la fonction royale, c'est-à-dire le grand connétable de France, l'homme qui brandit l'épée du royaume. Et puis, bien évidemment, De Gaulle a vu dans Bernanos la voix qui crie au désert, le vrai prophète. Donc les deux hommes sont faits pour, d'une certaine façon, se voir et peut-être œuvrer ensemble. Donc, mais Bernanos, le retour est quand même difficile. De Gaulle lui demande trois fois de revenir. Bernanos finit par rentrer en France. Il voit De Gaulle deux fois en lui faisant comprendre que, ma foi, la France qu'il retrouve, c'est un peu comme la France de 1919.
Oui, c'est ça, il y a un parallélisme. Hein. Les après-guerres.
Totalement. C'est exactement pareil. Ouais. La France a perdu la paix. La France n'est pas à la hauteur de sa victoire. La France ne demande qu'une chose, c'est à oublier et s'amuser. Et Bernanos, c'est ne surtout pas oublier, ne pas s'amuser et essayer de comprendre. Et face aux gens qui disent « Mais vous allez voir, cher ami, on va reconstruire, il y aura des machines, on va moderniser, ça va être formidable. » Bernanos dit « Non, mais surtout pas, on va dans le mur. On va dans le mur et vous y allez en souriant, c'est votre affaire, mais ne me demandez pas de vous accompagner. »
Alors la singularité de Georges Bernanos, c'est aussi d'avoir donné beaucoup de conférences. Il a donc écrit des romans, il a écrit une pièce de théâtre, on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Il a écrit des pamphlets, des essais, et il a aussi donné beaucoup de conférences qui sont publiées aujourd'hui dans des livres, hein, par exemple « La liberté, pourquoi faire » ou « La France contre les robots ». Je vous propose d'écouter la voix de Georges Bernanos. C'était en 1946, lors des conférences internationales de Genève, en décembre 1946. Écoutez-le parler de la société de consommation.
Cette civilisation est une civilisation de consommation qui durera aussi longtemps qu'il y aura quelque chose à consommer. En détruisant, elle se consomme. En produisant, elle se détruit. La civilisation mécanique et concentrationnaire produit des marchandises et dévore des hommes. On ne saurait fixer de limite à la production des marchandises. La civilisation mécanique ne s'arrêtera de produire des marchandises que dans le moment qu'elle aura dévoré les hommes, elle les aura dévorés dans des guerres en masse énorme et par monceau. Mais elle les aura aussi dévorés un par un. Elle les aura vidés un par un de leur moelle, de leur âme, de la substance spirituelle qui les faisait hommes. Et ce serait aussi folie, je le vois maintenant, de la croire capable de rendre un jour heureux dans un monde fait pour eux, ces hommes déshumanisés. Elle les détruira en périssant elle-même. Ils périront avec elle, si tels hommes peuvent encore prétendre au droit et à l'honneur de mourir.
Un prophète n'est vraiment prophète qu'après sa mort, et jusque-là, il n'est pas un homme très fréquentable. Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir, écrivait-il dans une de ses conférences, La France devant le monde de demain. C'est quand même extraordinaire ce qu'il vient de dire.
Ah ben non, mais c'est génial. Non, il faut bien dire à nos auditeurs que s'invente sûrement à ce moment, dans cette conférence, dans la voix de Bernanos, l'expression de Bernanos, l'expression société de consommation. C'est très vraisemblablement là que l'expression a été inventée. Alors après, on en connaît la fortune. Oui, non, mais c'est surtout ça qui Bernanos ne se voulait pas prophète, il ne se voulait pas prospectiviste, futurologue ou planificateur, pas du tout. C'est un homme qui, vous l'avez cité parfaitement, c'est l'homme qui voit ce que tout le monde voit, mais qui seul a la liberté d'exprimer ce qu'il voit. C'est-à-dire que les autres voient, mais préfèrent ne rien dire ou faire semblant de ne rien voir, lui voit et parle. Et avec cette capacité quand même néanmoins prophétique d'avoir toujours un peu deux coups d'avance. C'est-à-dire que c'est un homme qui, entre 45 et 48, en pleine guerre froide, dit que la guerre froide, de toute façon, c'est une supercherie et ça ne durera pas longtemps puisque Washington et Moscou sont liés par le destin des machines et que la vraie rupture, c'est Nord-Sud. Alors, vous voyez aujourd'hui à quel point Bernanos avait sans doute raison.
Alors, la machine, c'est son combat, hein, la société des machines.
C'est, hein. C'est important parce que Bernanos, faut surtout pas en faire un passéiste, un homme qui a la nostalgie, comme disait De Gaulle, du temps des fiacres et des lampes à huile et des équipages. C'est pas quelqu'un qui déambulerait dans un village de campagne habillé en gentilhomme. Non, c'est pas ça. Bernanos avait d'abord un goût profond pour les sports mécaniques.
La moto?
Pour la moto. Quand il a été, pendant la Première Guerre mondiale, il a demandé très rapidement son passage dans l'aviation. Le début de l'aviation militaire, c'était plus qu'héroïque. Il a fait de la moto, il a manqué d'y périr en 1933, un très grave accident qui l'a laissé gravement handicapé pour le restant de ses jours. Il a fait plusieurs accidents de moto. C'était un dingue, c'était un biker. C'était un vrai motard en tenue de cuir qui faisait des randonnées motocyclistes. Il a même fait une randonnée motocycliste au sanctuaire de la Salette, là où il y a eu une apparition de la Sainte Vierge.
Ah oui.
Non, c'est ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui refusait les machines et qui refusait, il avait rien contre les lampes électriques. Par contre, là où il prévient, c'est qu'il dit que la machine doit rester à sa place, qu'elle ne peut pas occuper tout le terrain parce qu'elle risque à la fin non seulement de prendre la place de l'homme, mais de fabriquer l'homme dont elle a besoin. C'est surtout ça qui est important. C'est que l'humanité n'est plus la maîtresse des machines, c'est la machine qui est maîtresse de l'humanité au point que de fabriquer les hommes dont elle a besoin pour s'étendre. Et c'est génial, quoi. Ça veut dire que c'est l'homme-machine qui est au programme d'une certaine façon.
Et d'ailleurs, quand on lit « La France contre les robots », on a presque l'impression que le livre vient d'être écrit. Hein.
Ah ben non, mais là, tout ce qui est justement des textes, notamment celui-là, tous les textes de Bernanos, ben, on a entendu les mots extraordinaires de cette conférence de 1946 à Genève, tout ce qu'il a écrit sur l'impérialisme technologique, la domination des machines et tout ça est absolument intact. Et en plus, c'est écrit par un homme qui, à la différence d'autres figures qu'on connaît sur ce plan, Jacques Ellul, Charbonneau, oui. Günther Anders, qui est énormément lu dans les milieux aujourd'hui écologistes et presque libertaires sur la décroissance et tout ça. Tous des gens, des philosophes qui travaillaient quand même avec une documentation. Bernanos, il était au café avec les journaux. Et tout ça, ça vient d'une sorte de vision intérieure. C'est ça qui en fait quelque chose de phénoménal. Cet homme pointait les choses comme sur un écran radar avec sa propre et sa seule intuition.
Et notamment les atteintes aux libertés, à la liberté,
hein,
qui revenait souvent dans ses propos. Écoutez ceci, c'est un extrait de La France contre les robots. Voilà ce qu'il écrivait. Je crois que c'est un livre qui a été publié après, en 1945.
C'est publié justement à la fin, ouais. En Brésil, et puis après, évidemment, publié en France.
Voilà ce qu'il écrivait à cette époque. Le jour n'est pas loin, peut-être, où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l'État jugera plus pratique, afin d'épargner le temps de ces innombrables contrôleurs, de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue ou aux fesses, comme le bétail ? L'épuration des malpensants, si chère au régime totalitaire, en serait grandement facilitée.
Ah ben voilà, voyez, très bon passage, c'est exactement la situation actuelle, avec les puces qu'on vous met sous la peau ou dans le crâne, avec les reconnaissances faciales, avec toutes les cartes qui permettent de savoir ce que vous faisiez, à quelle seconde vous étiez à tel endroit. Je veux dire, le marquage policier, le développement proliférant des technologies de repérage qu'on a aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un pas dans la rue sans qu'on sache qui vous êtes et où vous allez. Bernanos, avec son espèce de flair comme ça, de cheval qui sent venir la mer ou qui sent venir l'orage, avait immédiatement vu la chose dès 45.
Voilà ce qu'il disait, je retiens cette phrase dans votre livre très précis, François Angelier, en 1927, quand on parlait de lui, quand il voulait se définir en quelque sorte, « Pensez à moi comme une espèce de voyageur, d'aventurier, je ne suis pas autre chose, je ne suis pas digne d'être autre chose, et si j'entre au ciel, je voudrais que ce fût en qualité de vagabond. »
C'est absolument magnifique. C'est magnifique, j'en ai même fait l'exergue de ce livre.
Ouais.
C'est une sorte de credo qu'il a maintenu toute sa vie. C'est quelqu'un qui avait une sainte horreur du chez-soi, du home, d'une espèce d'acclimatation dans un intérieur bourgeois où on faisait du gras et où la pensée somnolait, vous savez, comme la béarnaise, maintenue à bonne température. Et donc, son idéal, c'était la route. C'était les gitans, d'une certaine façon, la roulotte. Il le dit à un moment. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir sur la route avec les miens et devenir tresseur de panier ou coupeur de chien. Et effectivement, c'est ça. Et il a pris la route autant qu'il a pu. Enfin, c'est-à-dire qu'il a déménagé 30 fois dans plusieurs pays. Et c'était ça. C'était l'idée aussi que l'enracinement, au sens géolocalisé, était nocif.
Avec le refus de tous les honneurs, en fait. Il a refusé d'entrer à l'Académie française.
Il n'était même pas inscrit à la Sécurité sociale. Depuis la Sécurité sociale jusqu'à la Légion d'honneur, Bernanos aura refusé toutes les numérotations et toutes les formes d'inscription dans des livres, des registres,
des institutions.
Des institutions.
Fut-elle prestigieuse comme l'Académie ?
Ah bah non, bah l'Académie, c'était... Il a eu cette phrase célèbre, quand il ne me restera plus que deux fesses pour penser, j'irai les asseoir à l'Académie. Ça n'a pas empêché d'être grand prix du roman de l'Académie française en 1936 pour journal d'un curé de campagne grâce à son ami Mauriac, néanmoins, sur lequel il a beaucoup tapé, et Henri Bordeaux. Mais non, c'était la solitude, c'était l'homme... C'est le fermier qui vit à l'écart et qui voilà c'est une grande solitude. Seule la grande solitude lui permet de penser aux autres et seul le fait d'être solitaire lui permet d'être solidaire. C'est très étrange comme fonctionnement, mais c'est comme ça.
Et sa dernière œuvre posthume sera le Dialogue des Carmélites.
Oui, c'est Pierre Bruckberger qui avait mis en place un projet cinématographique. Qui était à partir d'une œuvre d'une romancière allemande, Gertrude von Lefort, La dernière à l'échafaud, sur le martyr de ces carmélites de Compiègne qui sont allés en fil se faire décapiter par la Révolution. Et c'est une des grandes méditations sur, d'une part, la sainteté et la mort, et la peur de la mort. C'est extraordinaire que ce soit...
Ça passe au moment de la Révolution française.
Voilà, absolument. Ouais. C'est au moment de la terreur. Et donc, ça a été l'opéra de Poulenc que l'on connaît. Ça a été un film, deux films, faits par Agostini et un autre par Pierre Cardinal, je crois. Et puis, j'ai une pièce de théâtre réécrite un peu par Béguin. Et c'est vraiment le dernier texte de Bernanos, qui est une sorte de quintessence de à la fois de son génie littéraire et puis de ses méditations, à la fois sur l'histoire française, en même temps sur la destinée de l'homme dans la mort, l'homme face à la mort.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs périodes, et ce sera ma dernière question, François Angelier, dans l'œuvre de Georges Bernanos, où tous ces livres vont dans la même direction ? Parce que, encore une fois, il y a des cycles, il y a les romans avec les curés dont on parlait tout à l'heure, il y a des pamphlets, il y a des essais, il y a cette pièce de théâtre. Quel pourrait être le fil conducteur de tout ça ?
Le fil conducteur, c'est la tentative acharnée de rédemption par le langage et l'écriture du monde moderne. C'est surtout ça. Et puis surtout, c'est cette idée que vivre en chrétien demande aujourd'hui le plus de sacrifices. Mais je crois qu'il y a une unité très très profonde de Bernanos dans tout ce qu'il a pu écrire, depuis les premières petites vignettes historiques en 1908 jusqu'au Dialogue des Carmélites en 1948, en passant par les romans mondialement célèbres, les pamphlets, les articles, tout ça. Il y a une grande unité, c'est-à-dire la capacité qu'a aujourd'hui le spirituel de riposter et de combattre, je dirais, c'est pas le charnel, mais la pesanteur du masque, ce qu'Simone Veil appelait la pesanteur du matériel.
Merci François Angelier.
Merci de votre invitation.
Je recommande vivement votre biographie qui s'intitule Georges Bernanos, La colère et la grâce, un livre édité au Seuil dans la collection Biographie. C'est un livre de référence à mon avis. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez l'émission pour l'écouter, la réécouter, la télécharger sur le site de la radio. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI. RFI.